Eh ben, écoutez, j'allais en parler, j'allais le dire, donc on va lui laisser directement la parole. Donc voilà, le docteur Olivier Ingénieux, gériatre à l'EHPAD de Saint-Laurent.
Bonjour. Alors, les maladies de la mémoire, en fait, ont trois dimensions. La dimension cognitive avec les troubles de la mémoire, la dimension de dépendance avec une perte progressive de l'autonomie, et la dimension comportementale avec des troubles du comportement qui vont arriver dont nous allons parler. Diapositive. Alors, les troubles de comportement sont la conséquence, en fait, à la fois de la progression de la maladie au niveau des lésions neurologiques, mais aussi sont le reflet de mécanismes d'adaptation de la du malade face à la maladie et face à ce qui va se passer dans son environnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le trouble du comportement est complètement différent d'un trait de caractère. Quelqu'un qui a été très gentil toute sa vie et qui, tout d'un coup, devient agressif alors que c'était pas du tout son... Donc, il y a un trouble de comportement dans ces maladies de la mémoire est pathologique s'il y a rupture avec un comportement antérieur. Diapo suivante. Il faut savoir que ces modifications du comportement dans les maladies de la mémoire sont fréquentes, mais elles ne sont pas systématiques. Mais elles sont parfois très embêtantes, parfois inquiétantes, mais surtout très fatigantes pour l'environnement. Mais il est important de les connaître pour les comprendre et pour aussi éviter, on va en parler, éviter les situations qui peuvent les générer. Et parfois, nous sommes à l'origine des situations qui génèrent ces troubles du comportement. Diapositive. Alors, il faut savoir que les troubles du comportement sont un mode de communication. Dans les maladies de la mémoire, il y a, comme l'a dit le professeur, une atteinte de la parole, une atteinte du langage, une atteinte des capacités, justement, à s'exprimer, à communiquer. Et alors, il y a d'un côté ces difficultés de plus en plus à communiquer et, à l'intérieur, une vie affective qui continue avec des émotions, avec des choses qui se passent à l'intérieur et qui va avoir du mal à, de plus en plus, avec la progression de la maladie, à verbaliser. Diapositive. On va voir d'abord, on va essayer de voir un petit peu tous ces troubles du comportement, il y en a beaucoup. D'abord, il y a les troubles, ce qu'on appelle les troubles de l'humeur, les troubles affectifs. Et d'abord, il y a le premier qui est très, très fréquent aussi, c'est la dépression. Alors, la dépression, donc très fréquente, surtout en début de maladie, est parfois secondaire, en fait, à une prise de conscience du malade, de ces troubles de mémoire qui arrivent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la forme de ces dépressions dans les maladies de la mémoire n'est pas toujours classique. Il y a des formes des présentations qui sont variables, et il n'y a pas forcément tous les mêmes signes que dans les dépressions. Par exemple, la tristesse n'est pas forcément au premier plan. Et absence de tristesse ne veut pas dire forcément absence de dépression, parce qu'il y a ce qu'on appelle des dépressions masquées. Dépression masquée, donc il va falloir rechercher d'autres symptômes, par exemple une perte de l'intérêt, une perte d'appétit, une perte d'entrain, parfois de l'hostilité, parfois de l'irritabilité, ou même de l'opposition. Ça peut être aussi des signes d'une dépression masquée. Diapositive. Un autre trouble du comportement fréquent dans les troubles affectifs, c'est l'apathie. Alors l'apathie, c'est quoi ? C'est une incapacité du patient à démarrer spontanément une action. C'est un patient il est assis, il va être capable de rester pendant des heures assis sans bouger. Ou vous lui avez mis l'assiette devant, et il va rester devant son assiette. Et si vous lui dites, allez, il faut manger, il va se mettre à manger. Et si on le sollicite, en fait, si on initie pour lui le départ, hop, ça déclenche l'action et il va être capable de le faire. Donc l'apathie, c'est ça, c'est cette difficulté à démarrer une action. Mais si on le déclenche, il va pouvoir aller jusqu'au bout. Dans cette apathie, il peut y avoir ce qu'on appelle, elle peut s'accompagner de ce qu'on appelle l'émoussement affectif. L'émoussement affectif, c'est une espèce d'indifférence. C'est-à-dire la personne est assise sur sa chaise pendant des heures, il peut se passer n'importe quoi autour, il y a télévision qui braille, n'importe quoi, et il reste indifférent. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la différence avec la dépression, dans l'apathie, vous n'avez pas de perte de l'élan vital. Vous avez une perte de démarrage, mais pas de perte d'élan vital. C'est-à-dire, par exemple, l'appétit peut être parfaitement conservé. Diapositive. Alors, également dans ces troubles affectifs, il y a ce qu'on appelle l'exaltation de l'humeur. Ça peut aller de la jovialité. Alors, la jovialité, c'est très sympa. Hein, on se dit, bah tiens, il rigole tout le temps. Mais ça peut aussi aller à l'extrême, à l'exaltation et à la désinhibition, et avec parfois perte de ce qu'on appelle les convenances sociales. Bah, c'est quelqu'un qui, bah, tout d'un coup, dans un lieu inapproprié, un lieu public, va se mettre à danser, à chanter. Alors, lorsque c'est à l'église et qu'on se met à se lever, à danser ou à chanter une chanson, c'est pas forcément, enfin, ça peut être difficile pour l'entourage. Ça peut être aussi, bah, au milieu de, sur un lieu public, se commencer à se déshabiller, etc. Ce trouble-là du comportement, on le retrouve plus fréquemment chez lorsqu'il y a déjà une personnalité soit cyclothymique, c'est-à-dire avec une humeur labile, soit alors aussi chez des gens qui ont des antécédents psychiatriques, bipolarité, etc., psychose maniaco-dépressive. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces troubles de l'humeur-là, on peut avoir une perte du ce qu'on appelle le contrôle émotionnel. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent passer du rire aux larmes, qui peuvent avoir des réactions émotionnelles excessives. On leur dit quelque chose qui est pas très grave et tout d'un coup, ça devient une catastrophe. Diapositive. Un des troubles du comportement très important, c'est l'anxiété, avec des attitudes d'angoisse. Et là, il y a deux syndromes qui sont fréquents et qu'il faut connaître. Le premier, c'est ce qu'on appelle le sundowning syndrome. En anglais, en français, ça veut dire le syndrome du soleil couchant. Et c'est une majoration de l'angoisse, des angoisses. Et en fin d'après-midi, lorsque le soleil va se coucher, hop, en fin d'après-midi, en début de nuit, tout d'un coup, il peut y avoir de l'agitation parce que l'anxiété augmente. L'autre syndrome, c'est le syndrome de Godot, qui est, en fait, là, c'est le patient qui, c'est le malade qui va suivre partout le soignant ou l'aidant, qui va le suivre derrière. Et ça, c'est une forme d'anxiété. Et le problème, c'est que ça peut déclencher chez l'aidant, chez le soignant, parfois une réaction qui est inadaptée, mais qui est due à la fatigue. Et puis l'aidant ou le soignant dit « arrête de me suivre partout, là c'est fatigant, je suis en train de travailler, va t'occuper, va faire quelque chose, va regarder la télé ». Et ça peut être vécu par le malade comme ça peut augmenter encore plus son angoisse parce que ça peut être vécu comme de l'abandon ou comme de l'agressivité. Et ça peut déclencher éventuellement soit en plus d'anxiété, soit de la colère ou de l'agressivité. On va voir ça après. Diapositive. Dans les troubles du comportement, on peut avoir aussi des troubles qui se rapprochent de signes psychiatriques, notamment des idées délirantes. Qui sont ce qu'on appelle, ce que les psychiatres appellent des mécanismes interprétatifs, c'est-à-dire à terme de préjudice. Et ça, c'est fréquent au début de maladie, et c'est augmenté par ce qu'on appelle le déni des troubles. En début de maladie, quand la personne ne reconnaît pas qu'elle a des troubles de mémoire, et typiquement, c'est ce que disait le professeur tout à l'heure, c'est la personne qui a perdu ses clés et qui dit, et qui ne sait pas où sont ses clés, qui a perdu ses clés, qui a oublié où elle a mis ses clés, qui dit « on m'a volé mes clés ». C'est le patient qui sort de Super U et qui ne sait plus du tout où il a mis sa voiture et qui dit « on m'a volé ma voiture ». Voilà, il interprète les choses. On peut avoir aussi des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles, et on sait que les hallucinations sont augmentées par lorsqu'il y a des troubles de l'afférentation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les troubles sensoriels, baisse de l'acuité visuelle, baisse de l'audition, peuvent augmenter, favoriser ces hallucinations. Et on sait que notamment chez les gens aveugles, il y a fréquemment des hallucinations. Il y a également dans ce type de troubles, on peut avoir ce qu'on appelle les troubles de l'identification. Et là, il y a notamment des choses comme la perte de la reconnaissance des visages. La personne ne reconnaît plus les visages connus. Il y a aussi, à l'opposé, les fausses reconnaissances. C'est-à-dire, c'est une personne, c'est un malade que vous avez jamais vu et qui va vous dire, eh ben, comment ça va et les enfants? Et puis elle part dans une grande discussion, comme si elle vous connaissait depuis toujours. En fait, vous l'avez jamais vu avant. Fausse reconnaissance. Il peut y avoir aussi une non-reconnaissance de sa propre image dans le miroir. Elle regarde dans le miroir et elle ne reconnaît pas la personne. Elle dit, mais je sais pas qui est cette personne. Diapositive. Enfin, alors, dans les troubles du comportement qui peuvent être très difficiles à vivre, il y a l'agressivité. Et l'agressivité, c'est une manière, c'est une manifestation aussi, c'est une manière de dire quelque chose. Ça peut être pour manifester de l'angoisse, et c'est une manière de s'exprimer, surtout s'il y a des troubles du langage, une manière de dire quelque chose. Alors, cette agressivité, elle a un sens. Elle a un sens et puis aussi elle a une valeur pour le malade, elle a une valeur antidépressive, quelque part ça veut dire je suis pas encore mort, je m'exprime encore. Elle ne sait pas comment dire les choses parce qu'elle n'a pas forcément, elle n'a plus forcément les mots pour le dire et donc elle va l'exprimer de cette manière-là. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que cette agressivité peut être aussi le reflet de l'attitude de la personne, du soignant ou de l'aidant. Par exemple, lorsqu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'exigences de la part de l'aidant ou du soignant qui dit bah, il faut manger, il faut aller prendre sa douche, tu t'es pas lavé, ça fait longtemps qu'il faut. Alors des exigences qui arrivent parce que c'est exaspérant, il veut pas aller se laver, etc. Et toutes ces demandes, ces exigences, cet excès entre guillemets de stimulation peut être mal vécu par le patient qui ne sait pas comment dire laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de faire ça, et comme il n'arrive pas à le verbaliser, il va le traduire par quelque chose, c'est une manière de dire ce qu'il ressent au fond de lui et qu'il a du mal à verbaliser. Diapositive. Quelques petits conseils de bon sens, mais qu'il est important de dire face à l'agressivité. Et jamais répondre à de l'agressivité par de l'agressivité. Il faut essayer toujours d'avoir une attitude douce, je dirais, bienveillante. D'abord, essayer d'isoler l'agresseur de son public, parce que plus il y a du monde autour, plus lui, notamment s'il reconnaît pas les gens qui sont autour, plus il va les voir comme de l'agression, comme si c'était des gens qu'il ne connaît pas et qui sont, il va le prendre comme un stress supplémentaire. Donc, isoler l'agresseur du public, l'emmener de manière bienveillante, lui dire, allez, on va aller s'asseoir avec lui, surtout ne pas rester au-dessus de lui, parce que l'attitude au-dessus du patient qui est assis, c'est aussi une forme d'agression. Donc, s'asseoir à son niveau, lui parler de manière douce, la voix douce, c'est très important, la voix douce, amicale, bienveillante, et l'inviter à lui dire, j'ai vu que vous étiez en colère, qu'est-ce qui va pas? L'inviter à s'exprimer et toujours de manière le plus possible neutre et bienveillant. Diapositive. Alors, dans les troubles du comportement importants et difficiles à vivre, il y a les cris. Ça, c'est un mode d'expression, lorsque la maladie est très évoluée, notamment lorsque le malade qui a perdu beaucoup de son autonomie, notamment qui est grabataire, on trouve ça en institution, mais on peut trouver ça à la maison aussi. Et ça peut être très difficile, et parfois le soignant ou les aidants, ils sont amenés à dire au médecin, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose? Là, ça devient insupportable, il crie tous les soirs, est-ce qu'on pourrait pas lui donner quelque chose? Sous-entendu, un petit sédatif, quelque chose pour... Eh bien, lorsqu'il y a des cris, se demander... Il y a toujours une raison, en fait. Essayer de se dire, pourquoi est-ce qu'il crie? Est-ce que c'est un inconfort? Est-ce que c'est de la douleur? Est-ce qu'il crie parce qu'il a mal? On a posé la question, est-ce que vous pensez qu'il a mal? Si le soignant ou l'aidant dit, non, j'ai pas l'impression qu'il a mal, parce que quand je viens le voir, il s'arrête de crier, et puis il a l'air plutôt content. Et on se dit, c'est peut-être une angoisse. Une angoisse nocturne, une angoisse d'abandon, une peur peur du noir, un petit peu comme l'enfant qui a peur du noir. Et dans ces cas-là, se dire qu'une parole rassurante, peut-être une petite musique, ou peut-être simplement de laisser un léger éclairage, peut-être que ça peut lever, arranger un peu ce problème-là, sans avoir forcément recours à de la médicalisation, enfin à des médications, à des sédatifs. Diapositive. Alors, un autre des troubles du comportement important, c'est la déambulation. C'est le patient Alzheimer ou autre qui déambule et qui se met en danger, et qui, ça peut aller jusqu'à la fugue de l'institution lorsque c'est dans une EHPAD par exemple, ou fugue de la maison lorsqu'il est à la maison. Alors, ces fugues, cette déambulation, ça peut être réactionnel à de l'ennui, à de la frustration, réactionnel aussi à de l'angoisse, pour essayer de fuir une angoisse, mais ça peut être aussi associé à des délires, et je me souviens d'une dame à l'EHPAD qui tous les jours partait en courant, et les soignants étaient obligés de la rattraper, et elle était complètement en panique parce qu'il fallait qu'elle aille chercher son petit à l'école. Elle disait « il faut que j'aille chercher le petit ». Et en fait, cette dame avait eu un enfant qui était handicapé, et elle était en panique parce qu'elle se souvenait qu'elle devait aller le chercher à l'école. Et alors là, il faut être, bien sûr, là, il faut beaucoup de réassurance assurée, mais parfois c'est très difficile, parce qu'il y a énormément d'angoisse. Et dans l'urgence, parfois, lorsque le patient se met en danger, on est parfois obligé de mettre un petit anxiolytique ou quelque chose comme ça, si on n'arrive pas simplement avec les bons mots. Diapositive, s'il vous plaît. Alors enfin, pour finir, il y a ce qu'on appelle les troubles des conduites élémentaires. Alors dans les conduites élémentaires, il y a les conduites alimentaires, comme l'hypophagie, c'est-à-dire le patient qui mange, il ou elle mange peu. Alors dans ces cas-là, il faut toujours aussi, le médecin devra toujours rechercher s'il n'y a pas une cause organique déjà. Première chose, voir s'il n'a pas mal aux dents, parce qu'il a peut-être des difficultés à dire son mal-être là. Donc toujours vérifier les dents, c'est très, très, très fréquent. S'il n'y a pas aussi une pathologie organique, un cancer, autre chose, enfin on peut avoir plusieurs maladies, bien sûr. Pensez aussi à une dépression. Mais si tout cela est écarté, ça peut être aussi un signe, un signe de la maladie d'Alzheimer. À l'opposé, il peut y avoir ce qu'on appelle l'hyperphagie. Alors là, c'est le grignotage, et ça, manger, qui mange toute la journée, ça peut être un équivalent dépressif. Et puis enfin, dans ces troubles des conduites élémentaires, on a les troubles des conduites sexuelles, avec soit une réduction de la libido, un désintérêt, et ça, c'est en principe pas trop mal vu par les aidants, mais au contraire, il peut y avoir une désinhibition, et avec parfois une perte des convenances, de la décence. Et puis, c'est voilà, typiquement quelqu'un qui avait été très prude toute sa vie, et puis tout d'un coup qui se met à dire des grossièretés, se met à dire des choses. Et les proches sont tout affolés en disant « mais on savait même pas qu'elle connaissait ces mots-là ». Voilà, donc, et ça peut créer des difficultés. Vous le comprenez très bien. Diapositive suivant. Alors, pour dire globalement la prise en charge de ces troubles du comportement, dans ces troubles, il faut essayer de rester souple. Il faut essayer de réduire tout ce qui est facteur de stress, en fait, tout ce qui peut déclencher en fait ces troubles du comportement, notamment pour ce qui est de l'agressivité. Aussi éviter, comme je disais tout à l'heure, la sensation soit d'abandon, soit au contraire la surstimulation, les demandes qui sont ces surstimulations, ces demandes intempestives qui peuvent être source d'agitation, et éviter aussi les situations d'échec. Typiquement, c'est la personne en début de maladie qui revient d'aller faire les courses et puis qui a oublié des choses sur la liste, et puis le conjoint va lui dire « t'as encore oublié, on peut pas te faire confiance, tu te trompes tout le temps, etc. » Et lui ou elle, ne sait pas comment dire les choses, n'arrive pas à exprimer, n'arrive pas, et commence à prendre conscience en fait de ça, et voilà, l'agitation, il peut y avoir de l'agitation, il peut y avoir de la dispute et de l'agressivité. Donc essayez d'éviter au maximum ces situations d'échec. Diapositive finale. Pour finir, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui gêne les capacités du patient à affronter justement les situations de stress et d'imprévu, d'où frustration, d'où parfois comportement, trouble du comportement. il faut donc ces troubles du comportement, en fait, faut comprendre qu'ils résultent en fait d'une inadaptation en fait du malade par rapport à des changements autour de lui, et parfois sont des réactions à des réactions inappropriées de l'entourage, réactions inappropriées qui sont souvent liées à l'épuisement aussi de l'entourage, et donc je dirais pour conclure, il faut essayer tant que faire se peut d'agir et parler de manière bienveillante et douce, et se dire que rassurer permet souvent d'apaiser les tensions. Merci.
Merci beaucoup, docteur Ingénieux. Alors, je vais vous repasser la parole, mesdames et messieurs. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Bonjour. Bon, en fait, j'ai bien écouté la maladie d'Alzheimer, je sais qu'aujourd'hui, le thème, c'est Alzheimer. Mais on n'a pas parlé, en fait, de tout simplement ce qui est démence. Tout ce que vous avez décrit, est-ce que ça s'apparente aussi aux autres maladies, en fait ? Enfin, de démence chez la personne âgée, notamment.
Oui. Pardon. Oui, enfin, tout ça, c'est lié, en fait. Hein. Et on parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer, mais en fait, mes collègues sont beaucoup plus experts que moi là-dessus. Il y a tout un tas d'autres maladies apparentées qui font partie de ce qu'on appelle les maladies de la mémoire. La maladie d'Alzheimer, c'est la plus connue. Hein, je pense que le professeur le dirait mieux que moi, c'est la plus connue. Mais il y a d'autres maladies de la mémoire, et en fait, c'est la même chose. Enfin, c'est les mêmes conséquences. Voilà. C'est en gros la même chose. Il y a des troubles de la cognition, c'est-à-dire mémoire et praxie, comme le disait le professeur, et une perte d'autonomie et des troubles du comportement. Donc il y a la maladie d'Alzheimer, mais il y a tout un tas d'autres. Hein. On a les démences vasculaires qui sont très fréquentes en Guyane, il y a démence à corps de Lévy, etc. Il y a pléthore en fait, mais tout ça, c'est les maladies de la mémoire. C'est pour ça qu'on parle de Alzheimer et syndrome apparenté. C'est toutes ces maladies-là.
Et pour revenir à l'agressivité, parce que vous disiez, enfin, il avait été dit que l'agressivité, souvent, est la conséquence, en fait, parce que la personne, c'est son moyen de communication.
Oui.
Mais est-ce que ça peut être aussi lié, parce qu'on parlait tout à l'heure de perte, en fait, des neurones, de façon oui. définitive, est-ce que cette perte aussi, tout simplement, au niveau neurologique, peut provoquer cette agressivité ? C'est pas forcément le moyen de communication de la personne.
Oui, vous voulez dire, est-ce que l'agressivité a aussi une origine neurologique ?
Voilà, somatique, oui.
Professeur, est-ce que...
C'est parce que j'ai déjà entendu parler de ça dans d'autres maladies qui n'ont rien à voir avec la démence, qui pourraient en fait expliquer l'agressivité chez les personnes en fait malades. Mais seulement que comme ça, ça ne se dit pas en fait aux aidants ou aux proches, ce qui fait qu'on ne comprend pas.
On retrouve l'agressivité dans d'autres maladies neurologiques, de dégénérescence neurologique, mais le professeur nous en parlera.
Alors, en fait... La maladie d'Alzheimer, la perte neuronale, peut commencer à différents endroits du cerveau. Quand ça commence à la face interne et temporale, c'est les troubles de la mémoire. Mais il y a des formes frontales, il y a des formes qui débutent par devant, et les régions frontales ont comme fonction, entre autres, d'inhiber les comportements d'agressivité. Donc vous perdez le système qui bloque l'agressivité, donc elle se développe. D'autres formes commencent par l'arrière, et des troubles visuels qui débutent. En fait, c'est très varié. Mais effectivement... Il y a également une cause de neurologique, c'est-à-dire la perte des neurones qui entraîne les troubles du comportement.
Ok, merci beaucoup.
Merci. Pas d'autres questions, si ?
Merci pour ces présentations. Je voudrais juste revenir sur quelques éléments. Certains ont été évoqués par des personnes qui ont déjà posé ces questions-là, mais j'aimerais y revenir sur la question, notamment du diagnostic. Alors, je ne sais pas s'il y a une intervention spécifique là-dessus par rapport au diagnostic adapté, notamment aux cultures de Guyane, etc. Je ne sais pas si Mme Hergis interviendra là-dessus ou pas. Mais c'est important, effectivement, d'appréhender ces questions-là dans un contexte culturel complexe, comme celui de la Guyane. Et la question de l'adaptation, notamment des tests, etc., on l'a évoqué en quelques mots tout à l'heure, mais je pense que c'est un élément important dans la phase d'accompagnement de cette maladie ou de ces maladies. mais je voudrais venir à un point précis sur la question de la médiation qui a été évoquée tout à l'heure. Quand on parle de médiation, c'est un bien grand mot pour désigner plusieurs choses en réalité. Il y a la question de la médiation sociale, la médiation culturelle, la médiation linguistique, etc. Tout cela est englobé dans ce vocable de médiation dans le cadre de l'accompagnement de ces malades. Vous l'avez évoqué, professeur, tout à l'heure dans vos échanges par rapport au CHOG. Mais la question de la médiation renvoie également à la question de la formation de ces médiateurs ou médiatrices. Parce que, malheureusement ou heureusement, dans certaines cultures, il y a des définitions qui sont complexes. Il y a des traductions ou transpositions complexes. Et quand on parle de démence, par exemple, tout à l'heure dans les propos de madame, ça renvoie, dans certaines cultures, à la définition même de ce qu'est la démence et de ce que sont toutes ces maladies qui sont liées, en fin de compte, à ce qui se passe dans le corps, dans le cerveau, etc., et qui n'ont pas de présence physique extérieure et que certaines cultures ont du mal à définir en tant que telles. Et donc, on a un vocable souvent dans ces cultures où la personne est dite folle. Vous voyez, elle est démente, folle, etc. Mais on n'ira pas plus loin dans la définition des différentes catégories de maladies. Et toutes ces maladies, notamment liées à la question de la mémoire, sont renvoyées à ce vocable-là, dans certaines cultures, parce qu'on n'arrive pas à définir clairement les choses. Parce que c'est physiquement pas visible, en fin de compte. Et donc pas traduisible en tant que tel. Il y a la question, dans la phase diagnostique, de la ce que vous évoquiez dans l'anamnèse, notamment, dans les entretiens, soit individuels, soit avec les familles, etc., où on rentre dans l'intimité des familles, dans l'intimité de ces familles, avec tout ce que cela peut comporter de tabous éventuels. Et cette phase diagnostique doit prendre en compte également cet aspect-là, parce que il y a des choses qu'on n'aborde pas dans certaines cultures. Or, dans la phase diagnostique, il est important de les aborder quand même. Donc on bouscule quelque part des prérequis culturels, et je ne sais pas comment vous appréhendez ça dans vos démarches d'accompagnement, et notamment dans la phase diagnostique. Après, il y a toute la question de la définition des lexiques utilisés. Je vous écoute parler depuis tout à l'heure et je me dis, mais... du coup, je regardais le public en me disant, mais qui il y a dans le public exactement? À 80%, ce sont des personnes dites initiées. Je vois l'ébène, je vois des gens qui... du CCAS de Manard, je vois un psychologue, je vois... Enfin, des gens initiés. Mais dans la réalité du terrain, ce n'est pas forcément des personnes initiées. Et ce foisonnement de lexique me fait peur à moi, qui suis dans le médico-social, donc qui, à première vue, pourrait être coutumier de ce vocable. Mais en tout cas, je me dis que je me mets à la place des familles concernées. Et quand le diagnostic est posé et que l'accompagnement est proposé, mais ces familles doivent être complètement en déphasage par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qui est proposé et les démarches d'accompagnement qui leur sont proposées. Donc je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Alors je les vois comme ça, peut-être que c'est pas forcément, c'est un peu décousu ce que je dis, mais je l'exprime de cette manière-là. Parce que ça me renvoie à la situation de certaines familles que je peux connaître par ailleurs, et je me dis, mais quand elles se retrouvent face à ça, elles doivent être complètement démunies, en fin de compte. Elles vivent dans un autre monde, et ce monde est traduit au travers d'un certain nombre de mots par des professionnels qui semblent, ne le prenez pas mal, hein, mais déconnectés de la réalité des familles en question. Donc,
si je peux me permettre de répondre un petit peu, parce que moi je suis à Saint-Laurent depuis très longtemps, 28 ans, et je connais pas trop mal le terrain. Et c'est ce dont vous parlez là, c'est exactement, c'est mon cheval de bataille. C'est vrai là pour la maladie d'Alzheimer, mais c'est vrai dans des tas de maladies. Moi, je suis palliatologue et je m'occupe d'accompagnement de fin de vie. Alors, ce qui est indispensable, on parlait de médiateur culturel, et ce qui est très très important, parce que le médiateur culturel, c'est pas juste un traducteur, c'est pas traduire d'une langue à l'autre. C'est pas Google qui peut s'en charger, c'est pas l'intelligence artificielle. Un médiateur culturel, il sert à transposer, comme son nom l'indique, c'est une médiation dans la culture, c'est-à-dire qu'il va faire l'interprétation culturelle, y mettre les bons mots sur, c'est pas juste traduction mot à mot. Et donc ça, c'était pour les médiateurs qui sont indispensables, et moi j'irais même beaucoup plus loin. Et j'ai travaillé là-dessus, dans le cadre des soins palliatifs. Il faut absolument avoir, et heureusement, on a de plus en plus, je pense qu'à l'Est, c'est la même chose, mais à l'Ouest, on a de plus en plus, chez les soignants, des gens issus des cultures, des différentes cultures locales. Moi, il y a 25 ans, quand je suis arrivé, à l'hôpital, il y avait des créoles et des métropolitains. Maintenant, chez les soignants, il y a des Amérindiens, il y a des Hmongs, il y a des Brésiliens, enfin des gens d'origine brésilienne, etc. Et des Bushmengués. Toutes les cultures sont représentées maintenant chez les soignants, chez les infirmiers, les aides-soignants, et chez les médecins qui sont là depuis longtemps. Il y a aussi des médecins qui parlent tant bien que mal les cultures, certaines langues locales, notamment le Nengue, mais aussi qui essaye de s'imprégner de ça et essaye de alors on est, vous disiez, comment faire passer, comment communiquer en quelque sorte, passer de quelque chose de très médical, de très rébarbatif, à le faire passer dans une autre culture. Et ben très souvent, moi je fais appel quand j'arrive pas avec mon modeste Nengue, quand je n'arrive pas à dire les choses, et ben je fais appel tous les jours à mes collègues, ce qu'on appelle des collègues ressources, c'est-à-dire des gens issus des cultures locales et qui essayent de m'aider à faire passer le message. Et ça veut dire aussi avoir une capacité aussi de vulgarisation, c'est-à-dire bien sûr on va pas dire les choses, c'est aussi notre travail, essayer de vulgariser, mais c'est la même chose aussi en métropole en fonction du public qu'on a en face de soi. Ici aussi, quand je parle de ces choses-là avec des gens issus des cultures bushinengue, par exemple, je vais essayer d'employer, alors si je suis aidé par un soignant nengue, c'est encore mieux, mais je vais essayer d'employer, parler de la mémoire, et la mémoire, ça, les gens y comprennent, les choses dont on se souvient, qu'on oublie, dire que c'est des maladies de la mémoire et qui peuvent donner ça. Alors toujours en étant en restant modeste dans les explications, mais on est aidé dans ces cas-là par les médiateurs. Alors c'est pas parfait, mais je crois qu'on arrive quand même à faire passer des messages. Je crois.
Merci beaucoup, docteur.
Je voudrais juste rajouter quelque chose.
Très rapidement.
Vous posez une question fondamentale, mais il y a une dimension transculturelle, c'est que le langage du corps d'un médecin, il a été façonné par 10-15 ans d'études, et il est forcément différent du langage du corps d'un patient, quelle que soit sa culture. Et ce hiatus est un des problèmes principaux qui complique la dimension du soin. Vous savez, on parle du jargon médical. Vous voyez un patient, même s'il parle votre langue, vous lui dites « vos hippocampes sont atrophiés ».